France Musique. France Musique, les grands entretiens. Judith Chen.
Je m'appelle Jean-Marc Louisada. Je suis né, il y a fort longtemps, dans une ville portuaire en Tunisie, à Bizerte. Et je suis pianiste. Bon, nobody's perfect.
En 1985, vous êtes donc finaliste de ce concours Chopin. Vous l'avez présenté une première fois en 80. C'était pas la bonne année, pas le bon moment, mais ça vous a servi et vous avez fait cette rencontre aussi avec Paul Badouras-Coda. En 85, vous êtes finaliste. Vous êtes même le favori de plusieurs journalistes qui vous donnaient leur premier prix. Et je crois que quelques semaines après, parce que on a eu au même micro que vous, Jean-Philippe Collard, il y a quelques temps, il y a peut-être une petite année, et à ce même micro, il nous racontait, lui qui était très proche de Horowitz, qu'il a très bien connu, chez qui il allait jouer à New York régulièrement, etc. Il avait un moment Horowitz à Paris et il lui avait proposé d'écouter deux jeunes pianistes. Et vous faisiez partie de ces jeunes pianistes. Alors vous qui aimez tant ces pianistes d'autrefois, qui les avaient tellement écoutés, entendus, admirés, quand vous vous retrouvez à jouer devant Horowitz, comment vous êtes ?
Oh ben, ça a été le plus beau jour de ma vie. Je revenais tout frais du concours Chopin et puis Jean-Philippe Collard me téléphone et me dit, voilà, Horowitz est là pour ses deux concerts à Paris. Est-ce que tu veux jouer pour lui? Mais c'était un rêve, parce que Horowitz, c'est l'histoire du piano. C'est le plus grand chanteur au clavier. C'est l'intelligence, c'est le magicien, le diable, un ange et le diable à la fois. C'est pour moi le plus grand pianiste de tous les temps. Autant j'adore Rubinstein, autant Horowitz. Il y a une douleur chez lui, une grande douleur chez cet homme. Il a dû souffrir tellement pour en arriver là, pour jouer comme ça. C'est pas possible de jouer, parce qu'on le trouve toujours un petit peu... On trouve toujours que c'est quelqu'un d'une grande star, un peu clownesque, des fois, alors qu'il joue avec une gravité, une des œuvres. Mais il y a ce côté démoniaque, il joue les sonates de Scriabine comme personne. Les sonates de Scarlatti, d'une pureté telle que les baroqueux, je pense, c'est leur modèle. Il n'y a aucun autre pianiste qui joue mieux que Horowitz. Alors, donc, quand il me demande de venir, j'ai accepté. Et moi, et Jean-Yves Flambeauvoisé, nous nous sommes retrouvés là, chez Jean-Philippe Collard, dans le 17e. Et d'avoir Horowitz, pour nous tout seuls, il était devenu notre grand-père. C'était notre grand-père et il était d'une gentillesse. Alors évidemment, il n'était pas là pour nous critiquer ou il nous a écoutés et il a adoré. Mais moi, il m'a dit des choses que je n'ai jamais oubliées. Il m'a dit, un jour, quand vous allez enregistrer la barcarolle de Chopin, je vous demande, Jean-Marc, de faire cette variation-là. Il y a un mi dièse. Il m'a dit, c'est la plus belle note. Il m'a dit, je ne l'ai pas enregistrée comme ça, moi, mais vous me promettez que vous le ferez. Mais je l'ai fait. Je l'ai fait et je l'y pense toujours. C'est une arabesque un petit peu. Soudain, on se trouve en Orient, on se trouve dans le désert, c'est un peu arabisant, mais c'est tellement extraordinaire. Alors, j'en ai parlé à Paul Badouras-Coda, il m'a dit non, je trouve ça pas bien du tout, mais il m'a dit, étant donné que ça vient de lui, tu peux y aller les yeux fermés. C'est fou, quand même.
Thank you.
Quand j'ai préparé le concours Chopin en 85, je l'ai préparé avec mon collègue dans un petit conservatoire à Suresnes. Et dans ce petit conservatoire, il y avait le plus grand pianiste polonais, Miloš Magin, compositeur et pianiste. Et Miloš, on lui doit l'intégrale Chopin, qu'il avait fait pour Decca dans les années 60, 65, 70. Il a eu un très grave accident de voiture, il a eu les deux poignets brisés, et il a enregistré l'intégrale 6 mois après. C'est phénoménal. Les études sont parmi les plus belles qui soient. Les mazurkas, les valses, les nocturnes, bouleversant de musicalité, mais c'est surtout stupéfiant de réalisation instrumentale. Donc, un jour, il m'a dit, mais jouez-moi quelque chose. Et j'ai joué sur un petit piano droit. Il m'a dit, mais Jean-Marc, il faut venir me jouer chez moi. Vous venez quand vous voulez. On avait en commun l'amour des tableaux. Il dépensait tout son fric en tableaux. Il achetait 3 tableaux par semaine. Et sa femme en avait marre parce qu'il y avait des tableaux partout, il y en avait dans la salle de bain, il y en avait comme moi chez moi, dans la salle de bain, il y a des DVD Blu-ray, mais c'est beaucoup moins beau. Chez lui, il y avait des tableaux, il avait même des tableaux de l'époque de Véronèse, il avait des tableaux contemporains, et chaque fois que j'allais chez lui, on buvait de la vodka, quelques petits plats polonais, il me dit, allez maintenant, on va aller au musée. Et on allait dans les étages et il me montrait ses dernières collections de tableaux. Il me manque tellement. Miloš, il m'a appris à jouer la mazurka. Il m'a tout appris là-dedans. Tout. Que la mazurka, c'était le Florestan et Eusebius de Chopin. On avait la Kujawiak, ce qu'on appelle la Kujawiak, la danse paysanne de la Kujawi. C'est invraisemblable à dire que ça a une Kujawi, mais c'est vrai, c'est une province polonaise. Et l'Oberek, qui est la danse paysanne. Alors, la Kujawiak est une danse langoureuse proche de Zébius. Et Florestan, c'est l'Oberek. Et dans chaque mazurka de Chopin, il y a ce rebondissement paysan, comme ça, avec un grand coup de talon sur le sol. Et l'autre, c'est une sorte de réminiscence de la Pologne, de la solitude. Et Chopin a écrit toute sa vie, toutes ses mazurkas, alors qu'il était en France. Ce sont des souvenirs de son âme perdue.
Oui, c'est son journal intime.
Son journal intime. Mais ça, je dois à Miloš. Pourtant, je les ai travaillés aussi avec Nikita Magaloff et avec Paul. Mais Miloš, il m'a tout appris pour Chopin. Et quand il s'est noyé dans l'île de Tahiti, mais qu'est-ce que j'étais triste. Il a attrapé une hydrocution. Il a disparu comme ça, à 68 ans, je pense. Quelle perte. Je suis tellement content aujourd'hui qu'un pianiste sublime comme Lucas de Bargue refasse sortir ces merveilleuses compositions qui sont des compositions qui sortent tellement du cœur. Elles sont pas intellectuelles, elles sont des improvisations d'une beauté naturelle, mais tellement travaillées. Ça sonne comme des improvisations, mais c'est une grande beauté. Ah, c'est quelqu'un qui a compté pour moi, Miloš, je l'adore.
Sur le répertoire, vous avez assez vite marqué aussi les choses. Il y a Chopin, évidemment, avec Schumann, vous êtes très attaché à ces deux compositeurs-là.
Mais c'est marrant, j'aime un petit peu moins Schumann aujourd'hui. C'est très bizarre.
Pour plus Schubert
évidemment. Alors là, mais mille fois au-dessus.
Mais est-ce que c'est une question de vie et d'âge?
Oui, c'est ça. C'est une question d'âge. Parce que, évidemment, lorsque j'écoute, que ce soit l'humoresque ou la fantaisie de Schumann ou les Davis Bündler, oh, ce sont des œuvres tellement sublimes.
Et que vous avez même réenregistrées.
C'est cela, voilà. C'est vrai.
Que j'ai c'était important pour vous, ça, d'avoir ce jalon-là.
Ah, c'était très
sympa. À quoi, 30 ans d'écart?
30 ans. Et je suis tellement content de l'avoir fait. Je me suis dit, oui, je peux mourir tranquille. Je les ai réenregistrés tels que je voulais les jouer, avec plus de simplicité, avec un bel instrument, avec plus de recul, moins de folie incontrôlée. Alors en fait, la folie contrôlée, c'est plus poétique.
Donc ça, c'est le Schumann que vous gardez. Mais sinon, voilà. Vous vous sentez plus loin de Schumann aujourd'hui?
Ah oui, je me sens plus loin. J'ai du mal. Je trouve qu'il y a... Finalement, il y a quelque chose d'assez malsain dans l'écriture qui me dérange un petit peu.
C'est quoi? C'est Eusébius et Florestan?
Ah non. Eusébius et Florestan, ça, ceux-là, ils sont un peu innocents, les pauvres. Parce que y en a un qui est féminin et l'autre qui est masculin. Non, c'est le...
C'est quoi ce malsain dans l'écriture, alors?
C'est cette écriture un peu nocive, je trouve. Parce que ce n'est pas si merveilleusement écrit. Liszt est absolument sublimement écrit. On sent l'homme absolument bien dans sa peau. On sent l'hétérosexuel parfait. Chez Liszt, le bon hétérosexuel. Avec toute sa vie, toutes ses femmes, sa séduction, et puis les moments troubles aussi. Mais... par rapport à Chopin, par rapport à Brahms, et par rapport à Schumann et à Schubert, Liszt est le plus sain de tous. Il faut travailler beaucoup, mais une fois qu'on a travaillé, Liszt tombe sous les doigts. Et musicalement, c'est sain, c'est beau, c'est naturel.
France Musique, les grands entretiens de Jean-Marc Louisanda.
Chopin, il est tellement compliqué. C'est ce que disait Samson François. On en a plein les doigts, mais c'est complexe. C'est pour ça que les études de Chopin sont mille fois plus difficiles que les études transcendantes de Liszt, qui sont certes transcendantes, mais une fois qu'on a transcendé la difficulté, ça va. Alors que Chopin, on peut être tout le temps dans la merde quand on joue sa deuxième étude et ses tierces et ses deux, trois premiers préludes de Chopin qui ouvrent le cycle des 24 préludes. C'est quasiment insoutenable de difficulté dans la simplicité. Chopin est insupportable là-dessus. Schumann, il est insupportable par les formules répétitives. Et c'est ça que je trouve un petit peu nocif. On sent qu'il est très instable. On sent une souffrance effrayante, même dans les choses les plus simples. On sent qu'il y a quelque chose...
Et l'obstination, pourtant, c'est quelque chose qui vous est proche.
Oui, mais ça, je m'en échappe. Je m'en échappe de l'obstination. Parce que moi, si je me suis quasiment mutilé au concours Chopin en 1980, en essayant de m'obstiner à travailler un passage, j'en suis loin. J'ai fait quand même des études de psychanalyse là-dessus pour pouvoir essayer de m'apaiser là-dessus. Non, l'obstination, je veux plus.
Et chez Brahms alors? Parce que cette écriture de Brahms pour les pianistes...
Elle est très...
sépare, je trouve. Il y a des pianistes qui adorent Brahms, qui adorent jouer Brahms. Jouer Brahms, j'entends jouer Brahms. Oui, parce que souvent, on peut aimer sa musique de chambre, aimer le Requiem allemand, mais puis pas forcément la musique pour piano. Et puis, il y a des pianistes qui adorent jouer Brahms.
Oui.
Ouais, vous aimez 117, 118
117, 118, 119 et les rhapsodies, et puis j'adore les sonates. Je n'ai pas encore, je vais m'y atteler, hein, parce que je trouve qu'il y a tellement...
Les sonates piano-violon, piano-violoncelle.
Ah ça, j'ai joué, j'ai tout joué. Mmh. Oui, quelle splendeur de couleurs d'automne, Il y a quelque chose aussi de, qui tourne par rond, aussi, chez Brahms. Il y a quelque chose de pas net non plus. C'est ça qui est beau. Il y a une sorte de surabondance d'harmonie, d'écriture.
Très verticale.
Très verticale et aussi à la fois horizontale quand même. Hein. Il y a des grands contrepoints, mais c'est assez symphonique. Hein. Mais c'est d'une difficulté technique quand même assez effrayante. Et ça ne fait aucun effet.
Mais vous aimez ce qui est difficile?
Ah ben oui, oh ben oui. Ben ça, on aime, oui. Ben on n'aime pas ce qui est facile, bon, rien n'est facile. De toute manière, maintenant, plus je vais, plus je trouve. Mais c'est injouable de jouer une sonate de Mozart. Qu'est-ce que j'aurais voulu retomber en enfance pour pouvoir jouer plus facilement une sonate de Mozart? On jouait ça avec le cœur, avec notre technique fragile et toute simple, voilà, tout était un jeu d'enfant. Mais là, maintenant, Mozart, c'est un cauchemar. Je peux plus, je programme presque plus de sonates de Mozart. C'est, du point de vue émotionnel, ça me fait trop pleurer. Il y a quelque chose d'assez insoutenable chez Mozart.
Par rapport à cette enfance que vous évoquez aussi, musique qui est liée ça aussi à une forme d'innocence.
Ah, moi, c'est le 27e concerto, le dernier concerto. Le mouvement lent, vous allez peut-être me trouver bizarre, mais pour moi, je vois un petit enfant qui est en train de mourir devant moi. Et on est impuissant devant une telle beauté, mais une telle douleur, c'est incontrôlable. Et Schubert est un petit peu comme ça, mais plus adulte. C'est incontrôlable aussi.
Et par rapport à Bach, comment est-ce que vous le jouez? Et est-ce que Jean-Marc Ouliassada, vous aimez l'enseigner? Parce que ce sont deux choses, hein. Le jouer pour soi, le jouer en public et l'enseigner.
Mais
trois choses même.
Joue petit à petit, mais il n'y a pas plus difficile. Il n'y a pas plus dur que Bach. Là, on est dans un autre univers. C'est encore plus difficile que Mozart. Peut-être c'est une question d'éducation aussi. Les pianistes romantiques, nous avons peut-être une autre écoute que cette écriture contrapuntique. Elle doit être implacable. Et nous sommes moins à l'aise que les clavecinistes qui, ça fait partie de leur vie. Nous, même si on a travaillé beaucoup les préludes et fugues de Bach, mais nous avons travaillé les préludes et fugues de Bach au conservatoire, mais d'une manière un peu trop pianistique, qui n'était pas dans le grand style d'archéologie qu'ont trouvé les baroqueux, dans le véritable grand style, avec les véritables phrasés qui sont écrits dans les cantates. Alors, moi, je l'enseigne, je pense que je l'enseigne bien. Parce que je suis très 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 rigoureux, mais quant à la jouer, mais je ne suis jamais à l'aise dans cette musique. On est à nu. Mais je pense que c'est une question d'années. Il faut vivre beaucoup plus longtemps avec une œuvre de Bach qu'avec une sonate de Beethoven. Il faut pouvoir jouer beaucoup pour être complètement à l'aise.
Même si le piano qui vous a été enseigné, c'est pas le piano de l'école Marguerite Long uniquement digital, c'est un piano qui part du poignet, qui part du bras.
J'ai eu des professeurs qui m'ont appris vraiment pas du tout le côté articulé, perlé. C'était cette école russe, avec la main en pont.
La respiration du poignet?
La rotation du poignet, avec tout le poids venant du bras et l'avant-bras extrêmement libre. Donc, ça donnait un son très riche, tel que l'avait Vlado Perlmutter dans les sonates de Mozart ou dans les Chopin ou Schumann, absolument exceptionnel, du même niveau que les Russes comme Sofronitsky ou Heinrich Neuhaus. Ça, je peux vraiment être très, je leur en suis reconnaissant à mes maîtres, parce que c'est vrai que le son, c'est ce qu'il y a de plus important au piano. Et ça, j'essaye d'inculquer à mes élèves qu'ils aient leur propre son, leur propre sonorité pour avoir un style, pour avoir...
Et le son, c'est le toucher.
C'est le toucher, et puis c'est notre âme aussi. Le son, c'est nous. Malheureusement, quand les gens sont un petit peu secs, on a le son un peu sec.
Toutes ces années d'expérience font qu'on travaille davantage ou moins ou différemment?
Ah, moi, je travaille beaucoup. Je travaille beaucoup, mais j'adore travailler. Piano, pour moi, c'est un grand amour. Mais j'adore travailler, même quand je suis en vacances. Peut-être ces temps-ci, je ne recharge pas un piano quand je suis en vacances. Mais très souvent, au bout de 4-5 jours, le piano me manque. Mais je suis rarement en vacances. Hein. Je déteste prendre les vacances. Déteste partir. C'est vrai que ça fait peut-être bien des années que je suis pas parti en vacances. Je pars quand il faut partir pour jouer, mais j'aime tellement Paris. J'adore rester ici. Je suis amoureux de Paris, mais je travaille beaucoup plus lentement parce que la mémoire ne fonctionne plus. Elle ne fonctionne moins bien qu'avant. Avant, quand je montais une œuvre, je la montais en un mois. Je parle d'un mouvement de sonate. Hein. Mais aujourd'hui, il faut que je me mette en loge pendant 6 mois. Mais d'un autre côté, on le fait bien. On le fait beaucoup mieux qu'avant. Alors, c'est pas une question de partition ou pas partition, parce que je joue depuis 15 ans maintenant avec les partitions, mais c'est pas parce que je le joue avec les partitions que je ne joue pas par cœur. Je joue évidemment par cœur.
C'est le soutien psychologique de savoir qu'elle est là.
Elle est là, et puis à force de travailler pendant des heures et des heures, on s'approprie tellement à la partition qu'on la déforme un petit peu. Donc c'est normal.
De revenir au texte.
Voilà, de revenir au texte. Mais voilà, moi je marche avec à mon rythme. Je préfère honnêtement jouer beaucoup mieux 2-3 œuvres que de jouer 50 œuvres et moyennement bien. Je m'en fous, je préfère y aller tranquille, à mon rythme. C'est Carlos Kleiber qui avait pas trop de répertoire, mais c'était la sublimité à chaque seconde. On était dans un monde, quel génie, et puis on entend une symphonie de Mozart, c'est le rêve. Les valses de Strauss, ça devient la plus belle musique du monde avec lui. C'est pas juste des viennoiseries.
Une valse de Johann Strauss fils par Carlos Kleiber pour clore ce 4e épisode des Grands Entretiens avec Jean-Marc Louisada. Équipe de réalisation, Gilles Blanchard, Sébastien Huel, Mathieu Leroux et Marie-Christine Ferdinand. Suite et fin de ce portrait demain à la même heure. Les Grands Entretiens sont disponibles en podcast sur francemusique.fr et l'application Radio France.
À réécouter sur francemusique.fr.